Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Je vais vous inviter à partager sur un sujet ce matin qui concerne la famille. Alors, on va partager un texte, parce que la famille, on peut le découper de plusieurs manières. On peut parler du mari, de l'épouse, des enfants. Et ce matin, on va se concentrer sur le mari. Donc, Éphésiens chapitre 5 et le verset 22. Éphésiens chapitre 5. Et le verset 22. Donc nous lisons, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alors pourquoi parler de la famille? D'abord parce que c'est la volonté de Dieu que la famille existe. Dieu a créé l'homme et la femme, et il leur a donné cet ordre de s'unir, donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et de former ainsi la famille. Un couple donc qui s'unit par les liens du mariage et dans la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de s'unir devant les hommes, mais en tant que chrétiens, nous nous unissons devant Dieu. Simplement, le mariage n'est pas non plus simplement devant Dieu, il est aussi devant les hommes. C'est pourquoi il faut garder ces deux notions. C'est un mariage, oui, un homme, une femme qui s'unissent à la fois devant les hommes et devant Dieu. Donc, ils font une promesse d'engagement, de s'aimer pour la vie. L'homme et la femme vont ainsi participer à l'équilibre familial. On a besoin du côté masculin, du côté féminin, pour créer cet équilibre dans le couple. Et la cellule familiale, ça va être le lieu de la conception. On va peut-être en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Le lieu de la conception, et puis la conception des enfants, mais aussi de l'éducation des enfants. Beaucoup de parents ont remis cette éducation souvent à l'éducation nationale, en disant c'est à la société de s'occuper de l'éducation de nos enfants. Or, on se rend compte que dans la parole, ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Alors bien sûr, l'éducation nationale aussi fait son travail, et c'est bien. Et de même sur le plan spirituel, ce sont aux parents aussi d'éduquer leurs enfants dans la foi et de leur enseigner la parole. Ce n'est pas juste l'école du dimanche qui est une bonne chose, mais les parents ont leur responsabilité aussi de faire connaître Jésus et de vivre l'évangile à la maison. Voilà, donc ça c'est quelques rappels. Toute autre conception qui existe dans le monde, que vous connaissez comme le concubinage, l'amour libre, les relations sans engagement, la polygamie, le pax, etc. Toutes ces choses sont venues à cause du péché et ne sont pas dans la volonté de Dieu à l'origine. Pourquoi parler de la famille? On a dit parce que c'est la volonté de Dieu, mais aussi parce que la famille, dans ces temps que nous vivons, est très attaquée, c'est une cible de Satan. Nous voyons que le diable veut détruire la cellule familiale, et il le fait abondamment. Il attaque bien sûr la famille, parce qu'il sait que s'il détruit la famille, il touche la société, et ainsi il va détourner des gens de Dieu. Le désir du diable, c'est de désunir les parents, De permettre que cet engagement qui a été contracté lors du mariage, il n'aboutisse pas, qu'il y ait des séparations, des divorces, qu'il y ait des tensions, des difficultés. Et bien sûr, il va tout faire pour que des couples soient brisés. Il va y avoir des tentations d'aller voir ailleurs avec l'adultère, toutes ces choses. Le diable aussi veut saper tout ce qui est autorité parentale. L'autorité parentale qui est nécessaire, mais aujourd'hui, bien des enfants ne craignent plus leurs parents. Il n'y a plus ce respect qui leur est dû, parce que c'est le message, souvent c'est le message du monde, c'est le message qui est véhiculé par les médias, la télévision, etc. Et les enfants sont les premières victimes de cet enseignement, n'ayant plus de repères solides. Et bien souvent, quand il y a un divorce, ils en souffrent. Bien sûr, les parents souffrent, mais les enfants aussi souffrent, et leur image du couple est affectée, puisqu'ils ont vu leurs propres parents divorcer. Eh bien, cela va créer aussi en eux une souffrance. Et puis aussi, leur image du couple va être dévalorisée. Quelques statistiques qui nous montrent la situation terrible dans laquelle nous sommes par rapport à la famille. Un mariage sur deux se termine en divorce aujourd'hui. Un mariage sur deux. L'âge moyen des divorcés chez les hommes, 34 ans, et l'âge moyen chez les femmes, 30 ans. Ce qui fait que c'est beaucoup plus jeune qu'il y a quelques années encore. En 1960, un ménage sur 10 était dirigé par une femme seule. En l'an 2000, 4 ménages sur 10 dirigés par une femme seule. Autrefois, les parents avaient en moyenne 4 enfants. Aujourd'hui, les enfants ont en moyenne 4 parents, avec les remariages qui existent et toutes les difficultés que l'on connaît quand il y a des familles recomposées. Alors ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, évidemment. Le mariage, la famille, a été bousculé, malmené. Alors j'aimerais voir ce que la Bible enseigne, voilà, sur le mari. D'abord, il est le chef de la femme, on l'a lu au verset 23, ce que dit la parole. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, dont il est son corps et dont il est le sauveur. Un autre verset nous confirme cette pensée. Alors il est affiché, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Voilà, donc c'est mentionné deux reprises. L'homme est le chef, littéralement, dans le grec, c'est la tête. L'homme est la tête, képhalé, en grec, la tête de la femme. Aussi, ce sens képhalé a un sens métaphorique. Il est utilisé de manière physique, quand on parle d'une tête de quelqu'un, mais aussi dans un sens métaphorique, c'est-à-dire ça désigne tout ce qui est suprême, saillant, tout ce qui est chef, conduite, etc. Alors, trois images sont utilisées dans la parole. D'abord, l'époux avec sa femme, l'époux, le chef de sa femme, l'Église ensuite, et Christ, puisqu'il est dit que Christ est le chef de l'Église, et puis aussi la pierre d'angle, dont il est dit que c'est la principale, c'est le même mot, la pierre, on pourrait dire de tête, mais c'est traduit la pierre principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Donc dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu parle de sa relation avec son peuple, et c'est souvent mentionné, comme d'un mariage. Une sorte d'union qui est contractée. Alors, vous avez par exemple un verset qui dit dans Ésaïe 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. » Dieu, c'est l'époux de son peuple. « L'Éternel des armées est son nom. » Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Alors, c'est intéressant de noter déjà que Dieu attend, un petit peu comme dans un mariage, une fidélité, un engagement jusqu'à la mort, dans la promesse, quand on donne notre vie au Seigneur, bien c'est jusqu'à ce qu'on soit dans l'éternité. Mais aussi, si on reprend cette image du mariage, il y a l'opposé, c'est-à-dire que quand le peuple est infidèle à Dieu, il est question d'adultère, pas d'adultère sur le plan physique, mais d'adultère sur le plan spirituel. C'est comme si on trompait Dieu. Donc Dieu fait le parallèle. Quand vous me trompez, dit-il, c'est comme quand un mari trompe sa femme. Voilà. Il y a cette même image qui est reprise dans l'Ancien Testament. Et puis si on regarde vers le Nouveau Testament, alors là les choses sont encore plus clairement exprimées lorsque Jésus est appelé l'époux de l'Église à plusieurs reprises. C'est l'époux, l'Église est appelée l'épouse. Et donc il y a aussi cette notion d'engagement comme un mariage, comme une union entre l'Église et Christ. Alors, dans le texte que nous avons lu, Éphésiens 5, 22, vous avez en permanence ce parallèle entre le mari et l'épouse, et puis Christ et l'Église. Il y a comme un enchevêtrement de ces deux notions qui passent du verset 22 au verset 33. C'est pour ça qu'il faut bien le distinguer. Et ce passage évoque l'idéal chrétien, on peut le dire aussi, c'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un mariage entre une femme et un homme qui sont tous les deux convertis. Et puis, la première chose qui est dit au mari ici, c'est de se conformer à Christ, dans son amour vis-à-vis de sa femme, d'avoir l'amour, le même amour que Christ. Son modèle pour le mari, c'est Christ, dans ses relations avec son épouse. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'est un chef, puisque le texte dit « L'homme est le chef de la femme, de sa femme ». Alors, c'est bien sûr, le mot chef, on peut tous l'interpréter de différentes manières, suivant ce qu'on comprend au travers de ce terme. Ce n'est pas un tyran, bien sûr, un chef, ce n'est pas quelqu'un qui va exploiter sa femme d'une manière abusive, qui va se sentir supérieur. Certains maris se croient supérieurs parce qu'ils se sentent plus forts, qui vont exiger de la soumission, qui vont exiger de leur femme ceci, cela, etc. Non. Dans notre société, le mot chef a souvent une connotation assez négative. Quand on parle d'un chef, on pense souvent que c'est une personne qui profite ou qui fait travailler les autres mais qui ne travaille pas lui-même. Vous voyez, il y a cette mentalité un peu chez nous qu'un chef, c'est plutôt un profiteur. Or, pas du tout dans la parole de Dieu. Ici, le chef, c'est un responsable. On pourrait prendre ce terme-là. Un responsable de famille. C'est quelqu'un qui doit rendre des comptes à Dieu. C'est quelqu'un qui Dieu va exiger certaines choses. Je pense à la chute lorsque Adam et Ève ont péché. C'est Ève qui a été séduite par le serpent. Et elle a ainsi entraîné son mari dans la chute. Elle a parlé à son mari a accepté, ils ont tous les deux péché. Eh bien, lorsque Dieu va parler, il va d'abord demander des comptes à Adam. Et il va lui dire... Qu'est-ce qui s'est passé? Il va donc considérer l'homme comme le responsable, en quelque sorte, de la situation. Et ainsi, il va lui demander, voilà, tu étais placé dans le jardin, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Puis Adam va s'expliquer. D'ailleurs, Adam ne va pas prendre ses responsabilités, puisqu'il va rejeter toute la faute sur Dieu et sur sa femme. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et puis, ensuite, Dieu va demander des comptes à la femme. Et la femme va aussi... s'expliquer en rejetant sa faute sur le serpent. Donc, un responsable, voilà, Dieu va lui demander des comptes. Et puis aussi, un responsable doit prendre des décisions, bien sûr en concertation avec son épouse, ce n'est pas le mari qui décide tout seul, mais il va prendre des décisions en harmonie, en concertation avec son épouse, mais pas dans son intérêt, mais dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt du couple et des enfants. Et il doit aussi tout faire pour le bien des siens, c'est-à-dire les aimer, les entourer, les protéger. Donc le mari, on peut dire, pour terminer ce point, il a une double responsabilité, une responsabilité envers sa femme, responsabilité de chef, si vous voulez, de leader ou de responsable, voilà, où Dieu lui demandera des comptes, envers sa femme et envers ses enfants. Ces enfants aussi pour deux choses. Les enfants sont élevés conjointement entre le père et la mère, bien sûr, mais le rôle du père est important dans l'éducation des enfants, dans le plan moral, dans le plan spirituel, et bien sûr de l'épouse aussi. Mais souvent, il y a chez le père une sorte de démission, entre guillemets, qui remet tout entre les mains de son épouse, plutôt qu'il va s'occuper de l'éducation, la formation, même spirituelle des enfants, alors que le père a sa responsabilité. Deuxième point, au verset 25, ce qui est dit du mari, il doit aimer sa femme. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors peut-être vous allez me dire, ça va de soi, c'est évident que le mari, il aime sa femme, voyez. Mais c'est marqué dans la parole quand même, c'est écrit, et c'est un ordre. Mari, aimez vos femmes. Et je me suis rendu compte que c'est l'ordre au mari qui revient le plus souvent de tous les ordres dans la parole de Dieu. C'est celui-là. Aimez vos épouses, aimez votre femme, etc. Il revient 4 fois dans le Nouveau Testament. Alors, bien sûr, Paul évoque la position du chef, on en a parlé, l'homme c'est le chef de la femme, mais il précise que cette autorité doit s'exercer dans l'amour. Marie, aimez vos femmes. Vous avez bien cet enchaînement qui s'opère, parce que un mari qui est chef, mais qui ne l'exerce pas dans l'amour, ça peut faire aussi des catastrophes. Donc, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi Paul insiste-t-il autant dans cette épître et dans d'autres que l'on doit aimer sa femme? Eh bien, peut-être parce que chez l'homme, c'est un de ses points faibles et qu'il a du mal à aimer dans la durée. Il a du mal parce que sans cesse, il a comme ce besoin d'autre chose. Par exemple, la Bible dit dans Proverbe, « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Donc c'est mentionné que l'homme il doit s'attacher à sa femme et rester fidèle. L'amour, c'est un petit peu comme un feu. D'ailleurs, vous avez ce mot « foyer » qui est utilisé. Foyer, c'est le lieu du feu, le foyer, mais ça désigne aussi le lieu de la famille, le foyer. Et le foyer doit être entretenu par du feu. Donc l'homme a sa responsabilité, il doit aimer sa femme comme on entretient un foyer. Il ne sait pas toujours comment aimer sa femme. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on a appris. D'ailleurs, l'homme ne sait pas bien extérioriser ses sentiments. Il a souvent, pour lui, considéré que c'était une marque de faiblesse que d'exprimer un sentiment. Donc, il les refoule. Et puis, il a du mal à exprimer des paroles d'amour aussi. C'est vrai. Alors, une étude a montré, je ne sais plus où j'ai entendu ça, j'ai plus les chiffres exacts, mais je me rappelle de cela. Une étude a montré que l'homme a beaucoup moins, exprime dans une journée beaucoup moins de mots qu'une femme, par exemple, selon des statistiques. Alors je ne sais plus la différence. Et le besoin d'expression de l'homme est inférieur à celui de la femme. Alors il y a parfois confusion entre l'amour véritable dont on parle ce matin, et puis le sentiment amoureux. Qu'est-ce que le sentiment amoureux ? C'est un état. Le sentiment amoureux, c'est un état d'âme. Ça veut dire que on est amoureux de quelqu'un. Et puis, si on se laisse conduire par cet état d'âme, si on n'est plus amoureux, alors ça veut dire qu'on n'aime plus. Vous voyez, on associe le sentiment amoureux à l'amour. Et le sentiment amoureux, qui peut, s'il disparaît, eh bien, la personne va changer de partenaire et va ainsi avoir un autre sentiment amoureux, etc. Et puis un autre sentiment amoureux. Tandis que l'amour dans la parole de Dieu, bien sûr, l'amour désigne un sentiment, mais dans la parole, c'est attaché à la notion de volonté, c'est-à-dire d'engagement, de vouloir aimer envers et contre tout, et de durer dans le temps. Aimer, c'est respecter, aimer, c'est entourer, aimer, c'est faire du bien. Ce n'est pas juste un sentiment amoureux. Et quand on n'a pas compris ça, alors on croit que aimer, c'est un sentiment amoureux, alors après, vous voyez, on a une vie déséquilibrée. Maintenant, comment un homme doit aimer sa femme? Alors le premier sous-point, c'est « comme Christ a aimé l'Église ». On l'a lu au verset 25. « Comme Christ a aimé l'Église », donc c'est un amour profond. Un amour, on peut réaliser, l'amour de Christ pour l'Église, c'est un amour qui se donne entièrement. Et ce parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure entre Christ et l'Église, et puis le mari et sa femme, il est là. Et là, c'est peut-être le point culminant, si on peut dire, parce que vous retrouvez la notion du sacrifice. Que dit le verset 25 ? Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc Paul montre ici la voie du sacrifice. Autant Christ s'est sacrifié pour l'Église, autant le mari doit se sacrifier pour sa femme. Et donc c'est un amour qui est vraiment empreint de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour en parole seulement, mais c'est un amour qui se démontre en actes, qui vont jusqu'au sacrifice. Deuxième sous-point, comment doit-il aimer sa femme? Comme son propre corps. C'est au verset 28, vous l'avez dans votre texte. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Comme son propre corps, c'est-à-dire bien que l'homme doit aimer sa femme comme un autre lui-même. Autant l'homme va nourrir sa chair, ça c'est la suite du texte, autant il va prendre soin de lui, et ça, on sait bien qu'on sait prendre soin de nous-mêmes, mais autant nous devons prendre soin de notre épouse. Autrement dit, ce verset nous enseigne à prendre soin, avec une grande attention de notre épouse, un petit peu comme Jésus le dit. Vous savez, dans cette règle d'or qu'on a méditée il y a quelque temps, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais on peut l'appliquer au couple et au mari, de dire tout ce que vous voulez que votre épouse fasse pour vous, faites de même pour elle. Donc le mari fait pour elle ce qu'il veut lui-même qu'elle fasse pour lui. Il y a cette règle au sein du couple qui est bien sûr très importante. Et puis la troisième chose qu'on peut dire, c'est il doit l'aimer sans s'aigrir. Ça, c'est un autre verset qu'on trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Il y a parfois des difficultés de communication dans le couple. Et puis, selon une étude que j'avais entendue, il y a trois grandes causes de conflits dans un couple, selon des statistiques. La première, c'est d'ordre de la sexualité, problème de sexualité. La deuxième, c'est la communication. Et la troisième, c'est des problèmes d'argent. Et vous avez ces trois facteurs-là. Et la communication est donc un des facteurs très importants pour la stabilité, la solidité d'un couple. L'homme, donc, a tendance à intérioriser, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il intériorise ses sentiments, il ne parle pas facilement de ce qu'il vit à l'intérieur. Et s'il se renferme sur lui-même, qu'il ne partage pas, eh bien, ça va créer de l'amertume, ça va créer de l'aigreur vis-à-vis de son épouse. Et c'est ce que dit ce texte, « Marie, que chacun aime sa femme sans s'aigrir ». Ça veut dire qu'il va falloir bien prendre une victoire là-dessus. Le mari doit donc veiller sur son cœur et ne pas laisser des mauvais sentiments envers son épouse y prendre place. Il doit apprendre aussi à davantage communiquer, c'est peut-être sa faiblesse. Il a plus de difficultés pour cela. Il doit apprendre à communiquer avec sa femme sur ses besoins intérieurs et aussi à comprendre sa femme. L'homme et la femme ont des manières très différentes de communiquer. Et c'est vrai qu'il nous faut faire des efforts de l'un, d'un côté comme de l'autre pour comprendre bien l'épouse ou l'épouse pour comprendre son mari. Il y a un psychiatre, un psychothérapeute qui s'appelle John Gray, qui a passé toute sa vie à étudier la différence entre l'homme et la femme. Et il a écrit un livre dont le titre est « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Saturne ». Alors le titre est intéressant. Dans le sens où ce n'est pas le même langage, vous voyez. Ceux qui viennent de Mars, ils parlent le martien, c'est ça, et ceux qui viennent de Saturne, un autre langage. Et il y a un problème de communication. Donc il faut qu'en tant que chrétien, nous arrivions à passer par-dessus cela et vraiment communiquer et se comprendre. Et ce qui est évident, vous voyez, pour un homme, ce n'est pas forcément évident pour une femme et vice-versa. C'est pour ça que des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu dans le couple. Donc, il doit aimer sa femme, ça c'était le deuxième point. Troisièmement, toujours dans notre texte, Éphésiens 5, c'est celui le plus développé concernant le mari. Éphésiens 5, il est dit qu'il doit quitter son père et sa mère. Alors, vous le retrouvez ici, hein, au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alors, ça c'est une citation du livre de la Genèse. On sait que Dieu l'a ordonné dès le début de la création. Pourquoi ? Pour fonder le couple et l'unité et l'identité familiale. Dans le contexte ici, on est toujours un petit peu dans l'application du parallèle entre Christ et l'Église et le mari et la femme dont on parlait tout à l'heure. Et ici, Paul aussi l'applique à Christ et l'Église. Dans un sens, Christ et l'Église vont devenir une seule chair, un seul corps qui va former le corps de l'Église. Mais concernant le mariage, l'homme doit quitter son père et sa mère, c'est-à-dire la famille dans laquelle il est né, de laquelle il est issu, et il est appelé lui-même à fonder une nouvelle famille. Mais ça commence par une rupture, quitter, on pourrait parler de cordon, rompre le cordon parental. Et si on comprend bien ce texte, cette rupture doit avoir lieu avant le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors ça ne signifie pas qu'il faut rompre les relations, bien sûr, avec ses parents. D'ailleurs, la Bible nous encourage et nous recommande d'honorer nos parents, de les respecter, de les aimer. C'est sur un autre plan. C'est-à-dire que ce n'est pas aux parents de régenter la vie du foyer qui se crée. Ce n'est plus à eux, c'est maintenant au nouveau couple, bien de se constituer maintenant un foyer, et c'est à eux de prendre leurs décisions. Alors c'est vrai que l'ingérence des parents dans un couple, ça a pu causer certaines difficultés, des tensions dans les relations de ce couple. C'est pour ça qu'il faut veiller que les parents ne soient pas de ceux qui veulent s'immiscer dans la vie privée de leurs enfants qui sont mariés. Et en même temps, les enfants doivent avoir de la sagesse pour établir certaines limites vis-à-vis de leurs parents, des parents trop envahissants peut-être, sans leur manquer de respect, sans manquer d'amour, mais en même temps en fixant certaines limites. C'est de la sagesse. Et tout ceci favorisera à l'épanouissement des deux côtés, que ce soit les parents ou les enfants. Voyez ce texte, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, si la Bible le dit, c'est que c'est nécessaire de le vivre et de le rappeler, qu'il y ait cette nouvelle entité qui se crée indépendamment des parents. Et puis, dans la suite, il est dit qu'il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est le quatrième point. Donc l'homme doit s'attacher maintenant et s'unir à sa femme. C'est la nouvelle cellule familiale. Le terme grec proskolao signifie s'attacher. Il doit coller, adhérer avec, se joindre étroitement. Eh bien, dans la parole, c'est le lien le plus étroit qui existe entre deux êtres humains. C'est le lien du mariage. Celui que nous avons lu. L'affection pour les parents demeure, l'affection pour les enfants c'est normal, mais l'affection pour l'épouse, le mariage, c'est une union particulière qui est plus forte que celle vis-à-vis des parents ou des enfants. Alors la relation du couple doit être sur un plan élevé. C'est mentionné pour l'homme, parce que certainement il a plus de difficultés à s'attacher à sa femme, peut-être que dans le sens inverse, parce qu'il est dit à l'homme, c'est à l'homme de s'attacher à sa femme. Il a peut-être plus de difficultés, pourquoi ? Parce que l'homme veut toujours une certaine marge de liberté. Il a tendance à avoir cette mentalité d'indépendant. Il a tendance à hésiter à s'engager à long terme avec quelqu'un. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent à se marier. Il a davantage de problèmes avec la fidélité que sa femme. Et dans de nombreux cas, quand il y a un problème dans le couple, souvent l'infidélité vient de l'homme. Il a du mal, il a beaucoup plus de mal à rester fidèle que la femme. Jésus d'ailleurs l'évoque quand il parle du problème de la convoitise, et il va citer l'homme. L'homme, il a un problème parce qu'il dit, si un homme convoite une femme, qui regarde une femme pour la convoiter, il commet déjà un adultère dans son cœur. Mais voyez, il prend l'exemple de l'homme. Donc l'homme a une difficulté avec son regard, avec la convoitise, avec la fidélité. Et l'homme doit lutter contre ses pensées impures, des pensées qui vont la détourner de sa femme, etc. C'est un véritable piège de Satan de lui faire croire que cet homme qui est marié, il sera plus heureux avec telle femme ou telle femme parce qu'elle paraît plus gentille ou plus ceci ou plus cela, alors qu'il n'en est rien. Et si le mari entretient ses pensées, bien des brèches vont se créer dans son cœur et il va être tenté de quitter le foyer. Et ainsi, ça va fragiliser l'unité du couple. Alors, en ce qui concerne le mariage chrétien, quand il est question d'attachement, on a dit c'est le lien le plus étroit entre deux êtres humains, mais c'est aussi un engagement pour la vie. Quand on s'attache avec l'épouse, eh bien c'est jusqu'au bout de notre vie. C'est comme ça qu'on doit le concevoir. Ensuite, l'expression « une seule chair », les deux deviendront une seule chair. Eh bien ça, c'est l'union véritable de deux personnes différentes. Et le couple, c'est le lieu de l'union la plus intime entre un homme et une femme. On peut penser aux relations sexuelles, c'est dans le mariage. Et je disais tout à l'heure que Dieu a prévu les relations sexuelles dans le mariage, mais pas ni dans le concubinage, ni dans la vie dépravée, dans la débauche, etc. Parce que c'est courant aujourd'hui que deux personnes se mettent ensemble, qu'ils aient ces relations, ça s'appelle de la fornication dans la parole, c'est un péché. Donc, l'infidélité, la prostitution, l'immoralité qui existe autour de nous, tout ça, c'est du péché. Ce n'est pas que Dieu a fait les choses d'une mauvaise manière, c'est que l'homme a détourné les bonnes choses. Parce que dans la Bible, et il faut le dire, les relations sexuelles sont bonnes et sont prévues dans le cadre du mariage. Mais l'homme a détourné ce qui est bon et l'a mis dans un mauvais cadre et en a fait quelque chose de mauvais. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de la sexualité, on a tendance à parler de la mauvaise sexualité. C'est-à-dire celle qui est en dehors du cadre du mariage. Et ainsi, on peut penser qu'on la dénigre et que c'est mauvais. Non, la Bible dit que c'est bon, mais l'homme en a fait quelque chose de dévié, et voilà, on le constate autour de nous, beaucoup de problèmes. L'immoralité va grandissant. Pour certains, les relations sexuelles sont devenues un jeu, auquel, par exemple, certains gars, ils vont vouloir conquérir le plus de filles possible. Et ça, c'est une erreur, c'est bien sûr une déviation. Je pense à cette histoire qui est arrivée à un jeune qui était sorti comme ça dans une boîte de nuit, et puis il a rencontré une fille comme ça qu'il ne connaissait pas. Ils sont sortis ensemble, le premier soir, ils ont passé la nuit ensemble. Et bien sûr, ils ont eu des rapports ensemble. Et puis en même temps, dans la nuit, je ne sais pas, ils ont écouté la radio, c'était à l'époque où CVA émettait encore sur les ondes. Ils ont entendu des émissions qui parlaient de Jésus, et ils se sont moqués de ça. Et ils ont dit, waouh, Dieu, c'est pour les curés, tout ça. Et puis, donc le lendemain matin, le jeune homme se réveille, la fille était partie. Et lorsqu'il va dans la salle de bain, elle avait laissé un message sur le miroir, avec son rouge à lèvres. Elle avait écrit en grosses lettres, bienvenue dans l'enfer du sida. C'est une jeune fille qui avait contracté le sida, et qui, dans son désespoir, le contractait à d'autres maintenant, dans sa folie. Et on a su ce témoignage parce que cet homme s'est retourné vers cette émission de CVA qu'il avait rejetée. Et son témoignage, parce qu'il a rencontré après des chrétiens, nous est parvenu. Combien c'est terrible de voir dans quelle folie nous sommes aujourd'hui. L'immoralité. L'immoralité est partout. Je voulais citer un exemple qui est arrivé juste à la convention, quand nous étions à la convention. Un des pasteurs reçoit un coup de téléphone sur son portable. Il regarde le message, c'était une image pornographique. Voilà. L'immoralité est partout. S'y attendez pas, ça va sur Internet, ça va partout, ça se faufile dans les foyers, et bien des personnes sont touchées, atteintes. Et je pense aux enfants qui ont une vision après de la sexualité complètement faussée, parce qu'ils voient des images qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et ainsi, toutes les familles sont atteintes. Par l'immoralité, bien sûr, il y a le diable derrière tout ça qui est en train de déverser ce flot sur le monde. Et nous voyons ces choses autour de nous. Donc nous devons prier pour que nos familles soient gardées, que nos enfants soient gardés, que les couples soient gardés de ces choses. Dans un couple, l'unité doit être si forte que si l'on touche à l'un, c'est comme si on touche à l'autre. Voilà l'unité du couple, elle doit être préservée. L'homme doit s'attacher à sa femme. Cinquièmement, il doit être sage. Alors ça, c'est le verset que nous trouvons dans 1 Pierre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. » Parole vivante le traduit ainsi. « Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. » Alors c'est le même verset traduit dans la parole vivante. Hein. « Ayez beaucoup d'égards avec elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. » Alors le mot rapport ici, quand vous voyez Marie montrer de la sagesse dans vos rapports, il s'agit du terme qui signifie la vie commune en fait. Dans l'original, c'est demeurer ensemble, vivre avec. Et Pierre évoque les devoirs du mari vis-à-vis de son épouse dans la vie commune. Alors bien sûr, l'homme a généralement une constitution plus rude que la femme, il est généralement plus fort, plus de musculation. Mais Pierre ne veut pas dire que la femme est un être inférieur pour autant. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Mais la Bible souligne la spécificité de la femme, ici, qui est d'une plus grande sensibilité, ou, selon une autre traduction, comme la traduction Semeur, qui est d'une nature plus délicate. Donc l'homme, les conseils de Pierre, c'est que l'homme doit montrer beaucoup plus de considération, de courtoisie, et de sagesse. Alors, intéressons-nous au mot sagesse. Effectivement, le mot sagesse signifie deux choses. C'est le terme grec gnosis, qui signifie la connaissance et la compréhension. C'est pour ça que la parole vivante a traduit « essayez de comprendre vos femmes ». Et c'est présent dans ce mot-là, « sagesse ». C'est-à-dire d'avoir de la compréhension pour son épouse. Alors le mari doit donc chercher à la comprendre. Il y a de grandes différences, bien sûr, entre l'homme et la femme, mais des complémentarités aussi. Par exemple, l'homme, il est davantage porté à prendre des risques, et la femme a davantage besoin de sécurité. Et vous voyez que ça fait un équilibre finalement les deux. L'homme est souvent plus sensible à ce qu'il voit et la femme est souvent plus sensible à ce qu'elle entend. Et finalement ça fait une bonne complémentarité. Et puis l'homme est souvent plus rationnel dans les actions, dans les raisonnements et la femme plus émotionnelle, plus intuitive. Et puis c'est bien aussi que l'homme et la femme réfléchissent ensemble pour trouver des solutions. Donc on voit que Dieu a créé l'homme et la femme avec des manières de fonctionner différentes mais en même temps il dit à l'homme qu'il va falloir aussi essayer de comprendre et profiter de tout le potentiel que la femme a, que lui n'a pas, et ainsi, tous les deux, bien trouver les meilleures solutions. Et puis, le sixième et dernier point, l'homme, il doit honorer sa femme. Dans 1 Pierre chapitre 3, à la fin du verset 7, « Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » La version Semeur traduit « Traitez-la avec respect. » Honorez-la, traitez-la avec respect. Alors c'est demander au mari de mettre leur épouse en valeur. Donc le mari ne doit pas focaliser sur les défauts, mais il doit au contraire valoriser les qualités. Je pense au portrait de la femme vertueuse, vous l'avez dans le Proverbe chapitre 31. Et dans ce passage-là, il est dit à un moment donné que le mari va louer sa femme. C'est écrit dans le Proverbe 31, verset 28. « Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles, voilà ce que dit le mari, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Donc le mari fait des compliments à sa femme, il en fait l'éloge, il la vante, il la loue, etc. C'est donc au mari qu'il est demandé de parler d'une manière positive de son épouse et c'est bien de se sentir valorisé, c'est vrai pour le mari, c'est vrai pour l'épouse, bien sûr, dans les deux côtés. Et si la femme, je l'ai dit tout à l'heure, qui est sans doute plus sensible à ce qu'elle entend que l'homme, n'entend que des propos la concernant qui sont plutôt dévalorisants ou rabaissant la contenant dans un domaine du foyer, admettons, eh bien, elle va en souffrir et avoir une image négative d'elle-même, et ainsi, eh bien, vivre un rejet, parfois même tomber dans la dépression à cause de ce sentiment de ne pas se sentir honoré, valorisé, et c'est une souffrance. En remarque finale de ce verset, si nous lisons la fin du verset, il est dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et donc, si on comprend ce verset, ça signifie que bien, les relations qu'il y a dans le couple vont avoir un impact sur l'exaucement des prières. C'est-à-dire, si le mari néglige sa femme, il va y avoir obstacle à la prière. Par contre, s'il l'honore, bien, les prières seront agréées de Dieu. Alors, vous voyez que c'est important de vivre ces choses. Et puis enfin, en conclusion, on va terminer. Le mari, on peut dire que c'est un être, doit être, un homme responsable et un responsable spirituel même on peut dire qui va s'attacher à sa femme. Il doit l'aimer, l'honorer tout au long de sa vie pour montrer la dimension de durée. Ça c'est une conception biblique de la place du mari dans un couple et il nous faut vraiment prier le Seigneur que Dieu nous fasse grâce. Je parle d'un couple chrétien bien sûr, le mari a pris sa place là. Et ça va favoriser l'épanouissement du couple. On va prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce. Sa grâce, je pense, sur nos familles, sur les couples, sur les enfants, et puis prier particulièrement pour les maris. On parlera de l'épouse, Dieu voulant, la prochaine fois, voir ce que la Bible enseigne. là-dessus, mais que les maris, véritablement, eh bien, suivent les conseils de la parole de Dieu avec toute l'aide du secours de Dieu, et qu'ils prennent leur place non seulement dans le couple, mais aussi dans la famille, dans la relation vis-à-vis de leur épouse et de leurs enfants. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne encore ce matin. Et nous voulons te prier, notre Dieu, de bénir nos familles, de les garder, de protéger ton peuple et de bénir aussi tous les maris chrétiens. Nous te prions de les fortifier, de leur donner ta sagesse, ton conseil et de permettre qu'ils puissent vraiment avoir des couples heureux unis dans ta présence. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es fidèle, de ce que tu bénis. Tu vois aussi peut-être les situations difficiles, conflictuelles. Et notre Dieu, nous avons aussi recours à la prière pour que tu viennes au secours de tous nos bien-aimés qui passent par une difficulté parce que tu désires l'harmonie et la paix dans la famille. Bénis aussi les enfants, Seigneur. Seigneur, que leur jeune cœur se tourne vers toi, qu'il y ait une œuvre de vie et de victoire, que les parents aussi puissent prendre leurs responsabilités de responsables d'éducation, responsables spirituels, que chacun prenne sa place. Seigneur, fais grâce à ton peuple et accorde-nous encore des temps de renouvellement dans ta présence, que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen.